Les pierres. Avez-vous déjà ramassé une pierre lisse pour la faire ricocher sur l'eau? Avez-vous déjà peiné à déplacer une lourde pierre obstruant votre chemin? La peinture de pierre devant vous est l'œuvre de Tenkong Wang, un artiste de notre communauté ecclésiale Willingdon. Ça s'appelle la peinture de Tenkong. Ça dit, c'est à travers la souffrance qu'on voit la bonté et la beauté de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël traversa le Jourdain dans la terre promise, ils prirent 12 pierres du lit de la rivière pour les ériger en terre promise. Ils placèrent cela comme rappeler aux futures générations la puissance miraculeuse de Dieu et sa fidélité et sa parole, à sa parole. Quand le jeune berger David fit face au géant philistin Goliath, il prit sa fronde et 5 pierres lisses du lit de la rivière. Ces pierres symbolisaient la foi de David en l'intervention puissante et la victoire divine face à des adversaires écrasants. Les pierres. Notre joie présente et notre destin éternel reposent sur celui qui détenait le pouvoir sur une pierre particulière aux portes de Jérusalem il y a 2000 ans. Le vendredi de la semaine sainte, Jésus fut arrêté, jugé et crucifié. De midi à 15 heures, les ténèbres couvrirent la terre. Le royaume des ténèbres aurait-il remporté la victoire? Quand Jésus rendit son dernier souffle, le voile du temple se déchira du haut en bas. La voix de Jésus était-elle anéantie? Ou bien un nouveau chemin vers la présence divine s'ouvrait-il? Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée, un notable du Sanhédrin, s'est rendu auprès de Pilate, le gouverneur romain. Il n'avait pas approuvé la condamnation de Jésus. Et c'était son statut élevé dans la communauté juive lui permit d'accéder à Pilate, l'homme ayant ordonné l'exécution de Jésus. Dans les moments de souffrance et de sacrifice, les hommes se révèlent, les convictions s'épurent, les destins s'scellent. Alors que les autorités juives et romaines sont complices d'une grave injustice, que tous suspectent les disciples, que les gens fuient, que la foule s'enfuit, Joseph prend un risque immense. Il prend un grand risque. Il s'identifie avec Jésus et il demande humblement le corps de Jésus. Pilate donne 2 ordres. D'abord, vérifier par le centurion que Jésus est bien mort. La mort confirmée, il ordonne de remettre le corps à Joseph. Matthieu 27. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul de lin pur et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre devant l'entrée du sépulcre et s'en alla. Jésus mourut en criminel. Sans sépulcre décente, son corps crucifié aurait été jeté dans une fosse commune avant le coucher du soleil. Cela devait être fait avant le coucher du soleil marquant le sabbat. Aidé du pharisien Nicodème, Joseph descend le corps de son rabbi, de son seigneur, de la croix. Il enveloppe le corps meurtri dans un linceul immaculé. Cette tâche prend des heures. Cette tâche devrait prendre beaucoup d'heures. C'est un moment de compassion intense, d'intimité sacrée. Cette scène rappelle les paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe 53. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Le tombeau neuf de Joseph était un lieu coûteux. Ça consistait par une chambre funéraire avec trois banquets entourant une fosse, protégée par une lourde pierre ronde. Près de 1000 tombes similaires datant de l'époque de Jésus ont été excavées. Seuls les plus riches possédaient ces pierres circulaires glissant sur une rainure inclinée, facile à sceller, mais quasi impossible à ouvrir. Le corps de Jésus est déposé sur la banquette face à l'entrée. Enterré comme un criminel, personne ne pourrait y être inhumé après lui, dans cette tombe. Joseph offre littéralement son tombeau à Jésus. C'est lui qui n'avait pas où reposer sa tête, reçoit enfin un lieu de repos. Joseph abandonne sa pierre, la pierre abandonnée. Marie de Magdala et l'autre Marie, mère de Jacques et de Joseph, restent assises face à la pierre, veillant. La scène bascule au lendemain, le samedi. Du tombeau, nous passons à une réunion anxieuse de chefs religieux complotant à nouveau avec Pilate. Ils pensent les signes inquiétants, ténèbres cosmiques, le voile déchiré leur font craindre une puissance échappant à leur contrôle. Ils disent à Pilate, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. » Les chefs religieux tremblent. Ils se souviennent des paroles de Jésus. Après 3 jours, je ressusciterai. Ils doivent verrouiller la pierre pour 3 jours au moins. Si les disciples volent le corps pour fabriquer une pseudo-résurrection, cette supercherie surpasserait la première. La première étant la prétention messianique de Jésus. Ils implorent Pilate. Lui seul peut déployer des soldats. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez assurer la sécurité comme vous l'entendez. » Pilate acquiesce. Il donne l'ordre, il scelle la pierre avec des cordes et un sceau officiel en cire. Toute effraction serait visible. Une garde romaine, celle même affectée à la sécurité du temple, est postée. Ultime verrouillage, Jésus et ses revendications messianiques sont enfin ensevelis pour toujours. La pierre scellée. Il croit détenir l'autorité finale sur cette pierre. La question demeure, à qui appartient réellement cette pierre ? Qui en détient véritablement le pouvoir? Qui la contrôle? En scellant cette pierre, les chefs religieux ont rendu impossible tout vol du corps. Pour qu'autre chose advienne, Dieu devra accomplir ses propres paroles.
Je sais, je ne suis la première personne à avoir vu quelqu'un mourir, mais voir mon Seigneur, mon Jésus, traité de cette façon, c'est pas quelque chose que quelqu'un devait avoir plaisir pour, après tout ce qu'il avait fait pour nous. La façon dont ils se sont tournés vers lui, le maltraitant, et on a demandé qu'il soit relâché. Alors, après que Jésus ait appelé, et Dieu a couvert Et on a entendu que le voile était déchiré du haut en haut. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec son corps?
Crucifié comme un criminel. Ils l'ont juste laissé là. Mais même après sa mort, Dieu continue à pourvoir. Joseph d'Arimathée est allé vers Pilate et a demandé son corps. Et par la bonté de Dieu, Pilate a accepté. Joseph a pris son corps et l'a préparé pour l'enterrement. Et il a mis dans la tombe et il a roulé une grande pierre. Plus tard, les chefs religieux sont allés vers Pilate par la crainte de la parole de Dieu qu'il va ressusciter dans trois jours et a demandé qu'on puisse mettre des gardes à la tombe. Ils ont utilisé leurs propres gardes, ils ont mis les gardes pour qu'ils veillent trois jours sur cette tombe. Après le sabbat, Marie et moi allèrent voir la tombe pour dire au revoir une dernière fois. Alors, quand nous sommes arrivés là, la terre trembla et l'ange du Dieu descendit et il s'assit sur la pierre. Et il était brillant et il nous a dit de ne pas avoir peur parce que je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Venez voir là où il était et allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et il va à Galilée, vous allez le voir là-bas. Nous étions terrifiés et remplis de joie et dépassés. Et on a couru comme on le pouvait pour aller annoncer aux autres ce qu'on avait appris. Et dès qu'on les vit assis nous attendre, notre Jésus, notre Seigneur, et tout ce qu'il a dit, comme si rien ne s'était passé. Nous nous prosternèrent et remplis de joie en train de l'adorer. Il nous dit de ne pas avoir peur et d'aller dire à ses disciples qu'ils aillent à Galilée, là où il va les rencontrer. Et nous courir, et je n'avais jamais couru comme ça avant. Mais nous avions appris plus tard que nous n'étions pas les premiers qui avions couru. Les gardes qui étaient là, quand l'ange nous a parlé, ils sont allés vers la cité, parler aux grands chefs religieux. Alors, ils se sont assemblés avec les anciens et tout le conseil, et on leur donnait l'argent et on leur dit dites au peuple que ses disciples sont venus la nuit et ils l'ont volé pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur entend cela, nous allons le calmer et vous protéger. Et quand ils prirent l'argent, et ils ont répandu cette histoire, et cette histoire a été répandue jusqu'à aujourd'hui. Plus tard le matin, les deux Marie ont... À l'aube du dimanche, les deux Marie retournèrent au tombeau, simplement pour contempler la pierre, rendre hommage, prier. Pour ces femmes courageuses, la pierre est immuable. Pour les chefs religieux, c'est un moyen d'enterrer l'histoire, d'éviter leur pire cauchemar. Un possible nouveau chapitre à l'histoire de Jésus. Soudain, les cieux rugissent. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. L'ange semble avoir une certaine allure, n'est-ce pas? Il accomplit l'ordre divin, puis s'assoit sur la pierre, comme s'il en était il s'assit dessus comme s'il en était le propriétaire. Et souvenons-nous d'une chose. L'ange ouvre le tombeau non pour que Jésus en sorte, mais il le fait pour que les femmes puissent regarder à l'intérieur. Son apparence était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes furent saisis d'une telle frayeur qu'ils devinrent comme morts. L'apparence de l'ange est d'une puissance et d'une pureté foudroyante. Des soldats aguerris sont instantanément paralysés par la terreur. Ces postes pour garder un mort deviennent eux-mêmes comme des morts, leur autorité réduite à néant. L'ange s'adresse aux femmes. Il sait pourquoi elles sont là. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous êtes venu contempler un tombeau, mais voici que le sépulcre est béant. Vous cherchez Jésus, vous regardez au mauvais endroit. Approchez, voyez, il n'est plus ici. Dieu a ressuscité son Fils. Dieu a accompli ses promesses. Puis après les avoir apaisés, il leur confie une mission. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quittant le tombeau en hâte, rempli de crainte et d'une immense joie, elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Ce mélange étrange de perplexité, d'émerveillement et d'exaltation, la confusion face au tombeau vide, l'étonnement devant l'inattendu, la joie naissante de la réalisation qu'il est ressuscité, serait-ce vrai? Elles étaient venues simplement contempler le tombeau. Elles ont vu la place vide où il reposait. Maintenant, elles courent avec la promesse de le voir en Galilée, exactement comme il l'avait annoncé avant sa mort. Elles portent cette incroyable nouvelle, mais quelque chose de plus grand les attend. Soudain, Jésus se tient devant elles. Elle les salue. Jésus était là sur le chemin, sans éclair ni tremblement de terre, simplement présent. Ses premiers mots, un familier bonjour, une salutation ordinaire. Bon dia, buenos dias, bonjour. Good morning, Soviet, Ni hao, Ni ho, Annyeonghaseyo, Konnichiwa, Komosaka, Salam, Aramish. Jésus les salue en ami. Les femmes saisissent ses pieds, des vrais pieds physiques. Ce n'est ni une vision, ni une hallucination. Elles adorent leur roi. Dernière au pied de la croix, première au tombeau, elles sont les premières parmi tant d'autres à rencontrer les ressuscités. Puis Jésus leur dit, allez, dis à mes frères qu'ils aillent à Galilée, ils vont me voir. Jésus avait promis de les retrouver en Galilée avant sa crucifixion. Sa résurrection transformera ses fugitifs en disciples. Le rire des dieux résonne dans cette histoire. Qui pourrait croire qu'une pierre retiendrait Jésus, le Fils de Dieu, avec une pierre? Et si nous doutons, Dieu vous invite avec joie. Venez voir, la résurrection de Jésus fut sa justification, son identité de Messie, Fils de Dieu, confirmée, son sacrifice ultime à la croix accepté par le Père sans la résurrection, Jésus serait un fou. Sans la résurrection, il n'y aurait aucune approbation divine sur sa vie et son message. Aucun sens à sa mort atroce. Aucun salut pour des pécheurs comme nous. Aucun espoir. Aucune pierre angulaire pour fonder nos vies. Aucun espoir. Aucune justice divine pour réparer les torts. Aucune espérance en notre propre résurrection. Le mantra serré, mangeons, buvons et soyons, marions-nous, car demain, nous mourrons. Mais il est vivant. Le tombeau est vide, mais il y a une tentative d'étouffement. Certains soldats rapportent l'événement aux chefs religieux. Ces derniers conspirent à nouveau en mode gestion de crise. Les soldats sont soudoyés avec une somme d'argent considérable. Une campagne de désinformation est lancée parmi le peuple. Ils ordonnent aux soldats, dites au peuple, ces disciples sont venus la nuit de nuit dérober le corps pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le calmerons et vous éviterons des ennuis. Si l'affaire arrive devant Pilate, les chefs religieux le corrompront aussi. Voyez-vous, les soldats risquent l'exécution pour une négligence. En collaborant, ils peuvent sauver leur peau. Ironie, les chefs juifs propagent désormais la version du tombeau vide, un récit alternatif qui persiste jusqu'à ces jours. La lourde pierre aurait été roulée et le corps volé pendant que les soldats dormaient. Une pierre déplacée. Pierre silencieuse? Vraiment? Une pierre monumentale roulée dans un silence absolu? Ce serait un miracle. Et si cela s'était produit pendant leur sommeil, comment auraient-ils su ce qui s'était passé? Nous choisissons quelle histoire de pierre croire. Nous choisissons quel miracle embrasser. La résurrection de Jésus d'entre les morts ou une pierre muette déplacée par les disciples comploteurs. Le choix nous appartient. Un seul de ces miracles s'appuie sur des preuves irréfutables, la résurrection de Jésus. Le tombeau vide, le consensus des chercheurs religieux et non religieux à se mettre d'accord sur cela. Le récit porte. Aucune fiction du premier siècle n'aurait présenté des femmes comme premiers témoins. Elles seraient considérées comme non crédibles. Alors, les disciples aussi passaient de la peur au courage, proclamant la résurrection de celui qui est mort. Et ils sont morts à cause de ça. Nous avons les quatre évangiles reconnus comme documents historiques fiables par les experts. Nous avons la plus ancienne confession de foi scripturaire de quelques années datant de quelques années après la résurrection, même les chercheurs libéraux reconnaissent aussi l'authenticité. Je vous ai transmis avant vous ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Paul ajoute, il est ensuite apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. C'est des interactions physiques. Jésus touchait les gens le touchaient. Jésus mangeait avec eux. Et cela s'ajoute le témoignage des millions de chrétiens à travers les siècles. Et ceci est la bonne nouvelle. Par amour, le Père envoya son Fils unique Jésus. Il est devenu homme. Il a vécu sans péché, mourut à la croix, à notre place, portant le châtiment de nos fautes, le poids de notre culpabilité, comme l'ange l'annonça à sa naissance. Tu t'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est mort, mais trois jours après sa mort, Jésus ressuscité, justifié, par son identité et son œuvre, à cause de ce qu'il est, nous sommes pardonnés. Notre relation réconciliée avec Dieu, Jésus a ouvert l'accès à la présence du Père. Le Christ ressuscité a triomphé des puissances du mal. Il a ôté à la mort son aiguillon. Il règne sur tout. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons connaître aujourd'hui la puissance de sa résurrection. Joseph d'Arimathée a offert son tombeau à Jésus. Mais Christ ne réclame pas votre tombe aujourd'hui. Il a demandé le cœur de Joseph et il demande le vôtre. Si votre cœur est mort, il peut le faire battre à nouveau. Il peut remplacer votre cœur de pierre par un cœur de chair. Si votre cœur est aveuglé, sa lumière divine l'illuminera. S'il est scellé, Jésus peut l'ouvrir avec tendresse. Même si vous avez creusé votre propre tombe, Jésus appelle votre nom. Même si votre cœur est obstrué par une pierre massive, Jésus continue de rouler les pierres. Si vous lui abandonnez votre cœur, le Christ ressuscité prendra place en vous. Si votre cœur lui appartient, il sera votre pierre angulaire, votre fondation inébranlable pour cette vie et pour l'éternité. Jésus t'invite à le connaître. Il veut faire toutes choses nouvelles. Lèvons-nous pour prier. Et si vous désirez aujourd'hui connaître Jésus pour la première fois, l'inviter à être votre sauveur et votre Seigneur, alors priez avec moi, ça va être sur l'écran, sur les écrans. Jésus, merci de m'inviter à te connaître. Merci d'avoir payé le prix de mes péchés à la croix. Je crois que tu es ressuscité. Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Prends ta place dans mon cœur. Je t'abandonne tout ce que je suis. Je renonce à mes voies indépendantes et esclaves du péché. Je me tourne vers toi pour le pardon de mes péchés. Je me tourne vers toi pour la guérison de mon âme. Conduis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis mon cœur de ton esprit. Donne-moi la vie nouvelle dès maintenant et pour toujours. Je suis tout à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, parlez à la personne qui vous a invité au rendez-vous à notre centre d'accueil où de merveilleuses personnes vont vouloir prier avec vous. Et si vous êtes rempli de questionnements, de doutes, je vous invite à faire cette prière avec moi. Jésus, je te demande de te révéler à moi. Jésus aime répondre à ce genre de questions, de prières. Il n'a pas peur de nos questions. Il n'a pas peur de nos doutes. Encore une fois, si vous avez pris la liberté d'aller au centre d'accueil, on va vous diriger à la façon comment vous pouvez explorer la foi chrétienne. Nous venons tous brisés, faibles et dans le besoin, et nous avons conscience de nos besoins. Et mais tous qui viennent à Jésus, cherchant la